lecture de l'évangile de Jean. Nous prenons au point où nous l'avons laissé, c'est-à-dire chapitre 6 et verset 16. Nous lirons du verset 16 au verset 29 sur ce passage. Le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. » Après le miracle de la multiplication des pains que nous avons étudié hier, voici un récit très condensé de la marche sur les eaux. Je dis un récit condensé parce que les évangiles synoptiques, on appelle ainsi les trois autres évangiles, les trois premiers, les évangiles synoptiques nous expliquent bien plus, bien mieux, plus profondément, la circonstance en cause, c'est-à-dire la marche sur les eaux. Et dans l'évangile de Matthieu, nous apprenons un certain détail intéressant, à savoir que Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté du lac. Il a donc demandé à ses disciples de s'embarquer et de traverser le lac. Et pendant ce temps, Jésus se proposait de renvoyer la foule. Nous avons vu qu'il y avait là une foule, n'est-ce pas, de plus de 10 000 personnes, et Jésus va lui-même renvoyer la foule. Essayons de nous représenter les choses. Les disciples, qui obéissent, ils étaient malgré tout obéissants. Ils ne comprenaient pas toujours, mais ils étaient obéissants. Les voici montés dans une barque, remplissant cette barque lourdement chargée, le soir de ce jour. On était le soir, il faisait jour encore, mais c'était sur le soir. Et puis voici les disciples partis à force de rame sur la mer, la traversée étant d'environ 40 stades, c'est-à-dire 40 fois 185 mètres, plusieurs kilomètres. Ce qui ferait peut-être dans les 10 kilomètres de traversée à faire. Et pendant ce temps, représentons-nous sur le rivage, et peut-être un peu au-dessus, sur les premiers contreforts de la montagne, Jésus faisant signe à la foule, appelant toute cette foule qui dégradait, descendait, n'est-ce pas, de les pentes, et appelant cette foule, la conviant, lui-même, il faisait cela, exhortant les uns les autres, « Allons, allons, reprenez le chemin, retournez chez vous, il ne faut pas rester là, retournez. » Ce devait être une scène extraordinaire, et une partie de la foule va obéir au Seigneur, suivre le conseil et reprendre à pied la route vers Tibériade en contournant par conséquent le lac vers le sud. Ils avaient mangé à satiété, ils avaient aussi été enseignés par le Seigneur, et nous avons dit que c'était là une fête céleste, admirable. Cette fête devait avoir imprimé en eux un souvenir indélébile. Et certes, de renvoyer la foule, ce ne fut pas un petit travail, un travail aisément accompli. Il fallut que pendant un temps assez long, quelques heures, le Seigneur Jésus joue ce rôle, n'est-ce pas ? Les gens seraient volontiers restés. D'ailleurs, nous allons voir qu'une partie de la foule ne cède pas et reste là auprès du Seigneur. Le Seigneur va se retirer un moment sur la montagne. Il va donc profiter d'un instant où la foule ne prend moins garde à lui pour s'échapper et monter dans la montagne pour prier à l'écart. Mais alors, voici que la nuit est venue. Et les disciples sont engagés sur la mer. Ils sont déjà éloignés de quelques kilomètres. Il nous est dit ici, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades. 25 ou 30 stades, ce qui fait 4 à 5 kilomètres. Puisque le stade, je l'ai rappelé, est de 185 mètres. Mais voici qu'à ce moment-là, une tempête se déchaîne sur le lac. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Une tempête s'élève. Et étant là, dans la nuit, nous nous représentons bien la position des disciples dans cette barque. Il faisait nuit, grand nuit, bien sûr, quand c'est la tempête. Ne demandons pas aux étoiles de briller, ne demandons pas à la lune de luire, n'est-ce pas? Et il fait noir, noir sur cette mer. Ce sont des navigateurs sur le lac, mais il fait bien noir. Et vous savez, les colères des lacs sont extrêmement dangereuses. C'est beaucoup plus difficile de naviguer sur un lac agité que sur la mer, souvent. Et nous nous représentons, n'est-ce pas, ces hommes-là, et tout à coup, surgissant de la nuit, voici qu'une forme blanche vient vers eux. Une forme blanche, une forme humaine, une forme blanche, n'est-ce pas, le Seigneur était revêtu d'une robe, voilà une forme blanche qui s'avance devant eux. Et naturellement, ils ont peur. Ils ont peur. Et nous nous représentons bien la chose, n'est-ce pas, voyant tout à coup de la nuit apparaître cette forme, ils se mettent à pousser des clameurs. Ah, se mettent à crier de peur, d'effroi. Comme nous voyons bien là, cette humanité, humanité demeurée craintive, demeurée apeurée depuis la chute en Éden, mes amis, l'homme n'avait pas été créé pour supporter la peur. La peur est une chose qui n'existait pas. Souvent, n'est-ce pas, l'on cherche à caractériser l'état péché par des observations extrêmement courantes. Eh bien, en voici une. Pourquoi l'homme a-t-il peur? C'est anormal, cela. Qu'est-ce qu'il y a? Quel ressort y a-t-il dans son psychique pour que, devant certaines choses qui ne sont pourtant pas menaçantes, il soit rempli d'effroi? On a peur de n'importe quoi, d'une petite chose, une petite souris qui se promène, n'est-ce pas? Et puis on a peur, on a peur. D'où vient cela? D'où vient cette prédisposition à la peur, sinon de cette peur qui eut lieu en Éden, lorsque l'homme eut désobéi? Il eut peur de l'Éternel Dieu. Et depuis, la peur est restée sur l'humanité comme une marque de sa flétrissure. C'est une des marques de sa flétrissure. Et les apôtres sont revêtus encore de cette humanité craintive. Ils tremblent de peur. Et c'est pourquoi le Seigneur va tout de suite les rassurer. C'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi. Mais comment vient-il? Il vient sans bateau, mais il vient en marchant sur les eaux. Et le récit nous dit, ce récit très condensé, il nous dit qu'il voulait le prendre dans la barque, mais il ne nous est pas dit que le Seigneur monta dans la barque, il voulait le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Là, il y a un mystère dans le texte, parce que le mystère d'ailleurs se voit très bien dans le texte original, plus que dans la traduction. Ils étaient encore à, mettons, 15 stades, c'est-à-dire 2 ou 3 kilomètres peut-être, n'est-ce pas, 2 ou 3 kilomètres de la rive vers laquelle ils se dirigeaient. Ils avaient fait, mettons, 5 kilomètres, 5 passés peut-être, si c'était 30 stades, ça faisait un peu plus peut-être de 5 kilomètres, et ils avaient encore, mettons, 3 kilomètres à faire. Se peut qu'ils aient traversé un endroit où la largeur était de 8 kilomètres seulement, d'après les renseignements que l'on a, n'est-ce pas, la plus grande largeur serait de 10 à 11 kilomètres dans le lac de Génézareth. Mais ils étaient donc encore éloignés de la rive. Or, il nous est dit, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors, il faut réfléchir là-dessus, sur cette chose. Et l'on peut se dire ceci, il est certain qu'il se passa quelque chose qui ne nous est pas décrit, mais pensons bien à ceci, c'est qu'il était impossible que le miracle de la marche de Jésus sur les eaux eut pour fin un instant de navigation à rame. Après avoir marché sur les eaux, voyez le Seigneur monter dans la barque, et puis les disciples continuaient de ramer alors que la barque est secouée, agitée, n'est-ce pas? Quelle transition avec la majesté du miracle, et puis cette pauvre navigation humaine, difficultueuse et pénible, nécessitant un fort travail des muscles. Voyez quel contraste, d'ailleurs c'est le contraste, chers amis, entre ce qui est la puissance de Dieu et ce qui est la pauvreté de la condition humaine aujourd'hui. Voilà le contraste. Voilà Jésus marchant sur les eaux, peu importait la tempête, il était là, facilement porté, et je vous dirai tout à l'heure comment le miracle peut être vu. Et puis alors, la condition de ces hommes. Et vous auriez voulu que, de sa condition, le Seigneur Jésus entre tout de suite dans la barque. Cela n'était pas possible dans l'instant. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu, agissant, un second miracle se fait, la barque. On ne sait pas comment, on n'a pas mesuré le temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu comme une coupure dans le temps. La barque à bord. Nous sommes arrivés. Ça y est, nous sommes arrivés. Vraiment, c'était le jour et la nuit du miracle, du grand miracle. Véritablement, aux côtés de Jésus, on se trouvait transporté dans un tout autre monde. Parlez maintenant un peu de ce miracle de la marche sur les eaux. Rappelons-nous que nous avons terminé notre précédente leçon sur le verset 15 du chapitre 6, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus ne voulait pas qu'on le fît roi, bien sûr, je vous ai expliqué pourquoi. Mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas de ce temps. Et si Jésus acceptait, avait accepté une pareille chose, c'était, n'est-ce pas, la victoire de Satan. Les hommes n'étaient pas changés, restaient ce qu'ils étaient. Il ne pouvait s'agir de cela, bien entendu. Mais les Juifs étaient incapables de comprendre cela. Alors, on voulait donc enlever Jésus pour le faire roi. Là était l'idée bien accrochée au cœur de ces hommes encore enténébrés. Quand on n'est pas éclairé sur les desseins de Dieu, comment voulez-vous que l'on comprenne? Et l'on a des pensées, des aspirations, des projets qui sont tout à fait qui vont à l'encontre des desseins de Dieu. Ce projet, donc, était insensé, n'est-ce pas, d'établir la royauté de Christ dans le temps présent, dans ce siècle-ci, et à cette pauvre royauté qu'on voulait lui attribuer, Jésus oppose, par sa marche sur les eaux, son empire sur les forces naturelles. Il fait des eaux mouvantes de la mer son marchepied. Et c'est ce qu'il est venu faire sur la terre. Il est venu sauver ceux qui se laissent guider au rivage par lui. Et voilà pourquoi le complément de ce miracle. Il a guidé ses apôtres au mirage. Ils abordèrent tout de suite. Ils ne savent pas comment cela s'est fait. Le Seigneur étant arrivé là, la barque a été comme portée par la puissance divine au rivage. Il est venu donc pour sauver ceux qui se laissent guider au rivage par lui. Et il est venu aussi pour marcher sur la toute-puissance de ses ennemis, sur les eaux en colère. L'empire du Christ, le voilà. Le voilà son règne, la pauvre royauté d'ici-bas, que Satan voulait lui donner, que des hommes qui ne comprennent pas, des hommes qui sont encore dans leurs pensées humaines, voudraient eux aussi lui donner à cette royauté, royauté qui n'est pas digne de Dieu, avec cette royauté qui ne transforme rien et qui laisse la terre s'appesantir dans son iniquité. Eh bien, cette royauté, le Seigneur, par la marche sur les eaux, oppose son empire sur les forces naturelles et surtout son empire sur la colère de la mer, la tempête, qui ne le dérangeait en rien. Il marche, il fait de ses ennemis son marchepied. Jésus, ainsi, en marchant sur les eaux, a manifesté une puissance victorieuse. Il faut toujours comprendre le pourquoi des choses. Un miracle n'est jamais fait pour l'amusement, pour la curiosité, pour une vaine démonstration, n'est-ce pas? Le miracle a un sens. Il est une parole, il est une prédication à lui tout seul. Il est un moyen de pénétrer les intentions de Dieu. Et je voudrais maintenant vous montrer que si Jésus a marché sur les eaux, la chose est toute simple et toute facile à comprendre quand on pense, n'est-ce pas, que Jésus dispose de la puissance divine, bien sûr, mais je voudrais vous montrer combien la chose est dans le fond excessivement simple à comprendre, très simple à comprendre. Lorsque nous, sur la terre, pour comprendre les choses miraculeuses, il faut toujours se servir d'un relais. Eh bien, lorsque nous, hommes, nous travaillons, lorsque nous nous agitons sur cette terre, en courant, en sautant, par exemple, n'est-ce pas, il y a des athlètes qui font des sauts en hauteur ou des sauts en longueur. Eh bien, que se passe-t-il? Nous suspendons, temporairement, pour un temps souvent très court, évidemment, nous suspendons l'effet de la pesanteur qui est la loi commune, n'est-ce pas? Sommes tenus à la terre, rivés à la terre par la pesanteur, eh bien nous suspendons si, par effort musculaire, par élan, n'est-ce pas, nous sautons, et quand nous sommes en l'air, quand on photographie un athlète en l'air, eh bien, et il a annulé pour ce temps, n'est-ce pas, dans une certaine mesure, bien sûr, mais il a annulé la loi de la pesanteur. Et il l'a annulé comment? Par le moyen d'une loi qui lui est supérieure, la loi supérieure du mouvement et de l'énergie du mouvement. Il a, n'est-ce pas, acquis la vitesse, il a lancé son corps est entré dans le mouvement, et ce mouvement a vaincu la pesanteur. Je dis cela d'un homme, je pourrais lui parler d'une machine, mais les machines ne nous intéressent pas. Il s'agit du corps de l'homme, n'est-ce pas, il s'agit de l'homme. Évidemment, c'est bien ce qu'on fait lorsqu'on lance un satellite autour de la Terre, la pesanteur est là, on vainc la pesanteur par une force, une énergie, n'est-ce pas, qui communique une grande vitesse à l'engin, mais nous parlons seulement du corps, c'est le corps humain. Donc, il arrive que par la puissance du mouvement, ce que j'appelle une loi supérieure de mouvement et d'énergie du mouvement, il arrive que l'on peut suspendre, tout à fait temporairement bien sûr, l'effet de la pesanteur. Mais le mouvement et cette énergie du mouvement, d'où cela vient-il? Eh bien, le mouvement est venu de l'effet de la volonté humaine. L'athlète qui saute, eh bien, il l'a voulu, n'est-ce pas? Il a pensé d'abord à cela. Il a eu l'idée, il a eu l'intention, il a pensé vouloir sauter, il a voulu exécuter un saut. Cela, il était attiré vers cette chose, il l'a fait, n'est-ce pas, en le pensant d'abord, il a pensé, et puis, il a voulu le faire. Il y a eu donc une idée, une pensée, vous savez que c'est l'idée qui détermine toute action dans le monde, que ce soit dans le bien ou dans le mal, c'est toujours l'idée. Aujourd'hui, notre monde est ravagé et détruit. Pourquoi? Parce que les idées sont mauvaises, les idées dont le monde s'est nourri sont des idées de mal, des idées de destruction, de dissolution, et c'est pourquoi le monde s'engage dans cette dégradation intensive. Mais donc, nous revenons à notre athlète, il a eu l'idée, et puis il a eu, à la suite de l'idée, la volonté. Or, si l'athlète peut faire cela pour un temps déterminé, ne peut-il exister, je vous pose la question, une pensée assez puissante, une pensée qui est plus puissante que celle de l'athlète, une volonté qui soit bien plus capable encore que celle de l'athlète, et qui ait pour effet d'affranchir le corps humain de la pesanteur pour un temps plus long, pour un temps non prescrit, un temps non limité. Le temps qu'on voudra, le temps que cette volonté jugera utile de le faire. Eh bien, chers amis, cette idée, cette pensée, suivie d'une volonté, eh bien Dieu le peut, l'Esprit le peut. Et nous voyons là l'empire, n'est-ce pas, de l'Esprit sur les lois naturelles, sur les lois de la matière. Nous en avons un petit exemple dans les possibilités de notre corps. Un petit exemple, n'est-ce pas? Je fais ce mouvement, je fais cela, eh bien, mais mon bras brave les lois de la pesanteur. Ah, je brave les lois de la pesanteur pendant un temps court, je ne peux pas aller bien loin avec ça, je ne peux pas m'envoler, n'est-ce pas? Mais, voyons, poussons les choses plus loin. Et l'homme sait bien, si l'homme n'était pas un grand péta, un péta, il n'y a pas de plus grand péta que l'homme sur la terre. Ah, c'est, et j'emploie ce mot parce que il n'est pas, il est encore correct, n'est-ce pas? Mais, il n'y a pas plus grand péta. Et si nos hommes de science, nos hommes qui se veulent raisonnables, n'étaient pas des péta, mais ils comprendraient ces choses. Ils voient bien que on a pu, dans la mécanique, réaliser, on a commencé par réaliser des petits effets, des tout petits effets. Puis on ne pensait pas qu'on irait bien loin. Quand on a commencé à inventer les machines de Gramme, n'est-ce pas, c'était déjà un progrès extraordinaire. Mais avant, il y avait des petites machines d'électricité, n'est-ce pas, qui utilisaient des électro-aimants, la traction. On se disait, avec l'électricité, on ne pourra jamais faire grand-chose. Ben, on fera des petits travaux, on pourra faire un petit peu, n'est-ce pas, de travail mécanique, mais un travail mécanique très faible. On fera marcher une horloge, des choses comme ça, c'est tout. Et puis, on s'est aperçu après, pas que on pouvait au contraire obtenir des énergies toujours plus grandes et par conséquent développer un travail toujours plus puissant. Et on a grandi les machines volantes. Elles ont commencé par une cage à poules qui volait, n'est-ce pas? Et puis, alors maintenant, ce sont des avions qui contiennent 400 personnes et qui bientôt en contiendront plus encore. Eh bien, on peut augmenter. Et si l'homme n'était pas un sot, mais il saurait que tant le monde physique, cela est encore plus possible que dans le monde mécanique, n'est-ce pas? Et il saurait qu'il y a, il existe donc des possibilités que nous ne connaissons pas. Nous ne les avons pas toujours connues, les possibilités mécaniques. Mais il existe dans le monde physique des possibilités que nous ne pouvons pas mesurer. Et si nous voulons nous les limiter, si nous voulons proclamer que c'est pas possible, que c'est pas moyen, nous sommes des sots, tout simplement. Nous sommes des aveugles. Et tout athée, tout incrédule est un sot, un aveugle. Un sot prétentieux. Voilà ce qu'est un incrédule, mes amis. Pas autre chose, il faut bien le dire. Hein? Et nous avons été cela, tant que nous avons raisonné, tant que nous raisonnons, nous sommes des sots. La parole dit, nous sommes des insensés. Nous n'avons pas de sens. C'est pas de sens commun. Nous sommes des insensés. Ainsi donc, si nous voyons que le corps, façon, observez, si nous voyons que le corps est capable de sauter, par conséquent, dans un temps très limité, de se libérer de la pesanteur, eh bien, mais l'esprit peut le faire autant qu'il veut, dans tout le temps qui lui plaît, il peut le faire ce qu'il veut, et la marche sur les eaux du Seigneur Jésus, c'est ça. C'est l'esprit qui a voulu cela, il a pensé, il a voulu, et la volonté de l'esprit étant puissante, plus puissante que celle de l'homme, Jésus a été porté tout le temps que cette volonté s'est maintenue. C'est pas simple? Voilà la chose, et comment il faut regarder l'arrière du miracle, comment il faut comprendre le miracle, non pas l'expliquer par connaissance d'homme, mais l'expliquer par recours aux possibilités de l'esprit, n'est-ce pas, en se servant du petit relais de l'aide que peuvent être les observations terrestres. Nous arrivons maintenant au commencement d'un long discours que Jésus va tenir. Et naturellement, nous nous arrêterons au verset 29. Nous voyons à partir du verset 22 la foule, c'est-à-dire une partie de la foule, celle qui n'a pas voulu quitter Jésus. Celle qui n'a pas voulu se séparer de Jésus, une partie de la foule était restée sur la rive orientale, donc, et elle y avait passé la nuit. On était au lendemain. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Le lendemain, n'est-ce pas, le lendemain, on était au lendemain. Elle avait donc passé la nuit là, sans doute ayant dormi dans des conditions d'inconfort, dans des conditions assez précaires, n'ayant pas dormi donc commodément. Ces gens, déjà fatigués d'une longue marche la veille, devaient être encore plus fatigués ce jour-là. Et ils étaient peut-être fatigués pour revenir à pied en contournant le lac. Nous avons dit qu'il y avait là peut-être 30 kilomètres à faire ou plus. Ben, nous savons au juste. D'autre part, ils ne voient plus Jésus. Ils ne voient plus Jésus. Et ne voyant plus Jésus, ils sont désemparés. Ils sont désemparés. D'abord, il y a, voyez cela, on doit constater cela, cette partie de la foule qui est restée là est désemparée, elle a perdu Jésus. Et ils cherchent Jésus, ils se questionnent. On voit les gens allant et venir. Mais où est-il? L'avez-vous vu? Ben, il était là hier, oui, il est parti, mais la barque est partie avec ses disciples. Il est resté bien longtemps après la barque, puisqu'il a renvoyé beaucoup de gens. Il est resté là, il a disparu, on ne sait pas où il est. Est-il sur la montagne? Est-il encore là? Ils l'ont cherché un peu sur la rive, pensant qu'il y était encore, puisqu'ils ne l'avaient pas vu prendre de barque, et qu'il n'y avait qu'une barque. Il y avait eu que la veille, il n'y avait qu'une barque là, hein, et pas d'autre. Si bien que les disciples étant partis seuls dans cette barque, Jésus était nécessairement resté là. Alors, il le cherchait partout, tout le monde s'affairait. On croirait voir ici la Sulamite à la recherche de son bien-aimé. J'aimerais vous relire dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 3, verset 1er. Chapitre 3, verset 1er. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. On croirait, n'est-ce pas, voir cela. C'est l'âme qui a goûté la présence du Seigneur et qui se trouve comme séparée de lui. Elle a été perdue. Elle a perdu Jésus. Et, bien entendu, il y a une chose qui intrigue la foule. C'est ce que je viens de rappeler, une seule barque. Cette barque, les disciples l'ont prise. Le Seigneur a été vu longtemps après le départ de cette barque, et alors ils ne comprennent pas comment il soit impossible de le découvrir sur la rive orientale. Alors ils vont faire une chose, ils vont traverser le lac et se rendre à Capernaum dans l'espoir de retrouver Jésus. Et arrivés à Capernaum, ils finissent par le découvrir. Ils découvrent Jésus. Ah, c'est toi. Et pour eux, c'est comme une apparition. Et une apparition parce qu'ils n'ont pas compris. Et ils n'ont pas compris. Ah, il est là. Il est là. Alors, ils ont toujours dans la vue, n'est-ce pas, le Seigneur qui s'est attardé longtemps, là-bas, sur le rivage, incitant tout le monde à s'éloigner, à partir. Et puis, ils l'ont plus vu, il a disparu, ils le retrouvent là, de l'autre côté. Or, il n'y a pas de lien dans leur pensée, mais il n'y a pas eu de barque. Mais comment a-t-il fait pour traverser? C'est pas possible qu'il ait fait tout ce tour à pied. C'est pas possible. Alors, c'est presque une apparition. Une apparition pour eux. Et c'est pourquoi ils vont tout de suite poser cette question à Jésus. Rabbi, quand es-tu venu ici? Et ce qui implique aussi cette autre question. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait pour être là? Comment tu as fait? Le Seigneur Jésus ne va pas répondre à cette question. Il y a bien des questions que le Seigneur Jésus laisse en suspens, mes amis. Et moi, de plus en plus, dans l'exercice du ministère, je fais comme ça aussi. Je m'efforce de comprendre la méthode du Seigneur Jésus et de laisser sans réponse les questions qui ne méritent pas réponse pour diriger la pensée d'un autre côté. Et c'est ce que fait le Seigneur Jésus dans ce cas comme dans certains autres. N'est-ce pas? Les gens sont préoccupés d'une chose, d'élucider le mystère de la traversée de Jésus. Il était là-bas, il est là, de l'autre côté. Ah ça, alors c'est incompréhensible, absolument incompréhensible, n'est-ce pas, dans les circonstances où ça s'est passé. Alors ils veulent élucider ce mystère. Vous savez que nous avons tous ce défaut, en général, et il faudrait que ce défaut-là soit un de ceux dont nous sachions nous corriger, nous-mêmes, par grâce. C'est un défaut de la nature humaine qui doit disparaître chez le chrétien. Vous voyez qu'il n'y a pas que les péchés d'ordre moral. Ça, je bataille, vous voyez, souvent là-dessus, parce que quand on parle de péché, immédiatement, on voit un péché moral. Ah, moi je fais rien de mal. Hein. Je n'ai pas volé, moi. Si je trouve une épingle, je demande à qui elle appartient. Enfin, si, moi, mentir, je ne mens pas. Et puis, faire du mal, moi, je fais de mal à personne, n'est-ce pas? Alors, on voit toujours des péchés d'ordre moral. Mais non, mes amis, il y a tout un secteur, un immense secteur de transgression, de désobéissance, qui n'ont pas de valeur morale, à proprement parler. Allez demander, surtout aux moralistes de notre temps, n'est-ce pas? Et vous verrez qu'ils vous diront, mais vous n'avez pas servi Dieu, vous ne l'avez pas aimé, mais vous avez bien fait. Mais c'était ça qu'il fallait faire, pas? Eux, ils appellent le mal bien. Nous en sommes dans ce temps-là. Eh bien donc, n'est-ce pas? Nous sommes souvent, voilà ce défaut dont je vous parle, nous sommes souvent préoccupés des mystères de Dieu. Quand il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, n'avons pas vu, le lien rationnel entre deux choses, et on se comprend, ah, moi, c'est chaud, ah, puis on est là, puis on dit, il faut que je comprenne, je veux comprendre. Puis alors, on se ferme à toute autre pensée, on oublie le Seigneur, on oublie sa bonté, on oublie son amour, on oublie tout, la foi, on oublie tout ce qu'on a à faire, et puis on regarde cette petite affaire-là. Ah, il faut que je comprenne ça, je comprends pas ça. Et on est préoccupé, n'est-ce pas, d'élucider un mystère. Et le mystère, d'ailleurs, qui nous préoccupe, ce n'est pas de s'expliquer des choses grandes, élevées, c'est souvent un petit détail. Un petit détail. Et dans bien des questions, chers amis, on voit ce défaut poindre. Ça, combien de fois, par exemple, on m'a demandé, mais qu'un... Où a-t-il pris sa femme? Chers amis, corrigeons-nous de ça. C'est un vilain défaut, voyez, un très vilain défaut. Ce n'est d'ailleurs pas de s'expliquer toutes les choses que nous viendra la sagesse. Ce n'est pas de cela. Mais la sagesse nous viendra, n'est-ce pas, d'écouter Jésus, d'entendre Jésus, de rester à ses pieds et de travailler, comme il le dit ici, pour les choses éternelles. Alors Jésus ne va pas, bien sûr, satisfaire cette petite curiosité. Il ne va pas leur dire, eh bien, je n'avais pas de bateau, puis je suis venu tout de même à travers le lac, alors essayez de comprendre. Pas de bateau, venu à travers le lac, comment il a fait? Il ne va pas leur poser une devinette, n'est-ce pas? Mais j'ai marché sur les eaux. Ces gens-là n'auraient même pas compris. Ils n'auraient même pas voulu accepter la chose, voyez-vous? Ils n'auraient pas voulu accepter. Jésus ne répond pas. Il ne répond pas. Mais il va répondre autrement qu'à la question. Il va répondre pour ramener la pensée de ses interlocuteurs vers la bonne direction. Quand nos pensées, mes amis, s'égarent, et elles s'égarent souvent, quand elles s'arrêtent en chemin à muser auprès des petits détails qu'on rencontre dans une prédication, dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, les petits détails qui ont attisé notre curiosité. Eh bien, alors le Seigneur, lui, il ne nous répond pas. Il ne nous répond pas. Et il attend que nous ayons un petit peu plus de foi et de sagesse pour considérer les grands mobiles de Dieu, les grandes choses, considérer notre âme, considérer les temps éternels, considérer le royaume de Dieu qu'il nous faut rechercher, rechercher essentiellement, au-dessus de tout, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et puis s'il y a des petits détails que vous ne comprenez pas, eh bien, peut-être les comprendrez-vous un jour si c'est nécessaire. Mais ne butez pas là-dessus et ne restez pas le nez attaché là, n'est-ce pas, comme les toutous qui ne peuvent pas aller ailleurs tant que leur flair les a fixés sur un point. Jésus n'est d'ailleurs pas du tout satisfait. Il n'est pas satisfait. Pas du tout. Autant, à certains moments, quand il y a jaillissement de la foi, le Seigneur est pleinement satisfait. Jésus n'est pas satisfait parce qu'on le cherche. On le cherche en raison de ce qu'on a mangé du pain et de ce qu'on a été pendant cette journée soustrait aux exigences de la terre. On a mangé un pain qu'on n'a pas été obligé de gagner, un pain qu'on n'a même pas été obligé de payer, obligé d'aller chercher loin de ce lieu, n'est-ce pas, un pain qui est venu comme ça, on a mangé du pain. Eh bien, voilà cela. Ce n'est même pas la vue des miracles, dira le Seigneur, qui lit dans le cœur de ces gens, bien sûr. Je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est ça, dans le fond, c'est cette préoccupation charnelle qui est dans votre cœur maintenant. Le Seigneur découvre tout. On ne peut rien lui cacher. Vous voyez, n'est-ce pas? Il voit cela et il n'est pas content. Il n'est pas satisfait. La vue des miracles, même la vue des miracles, n'est pas restée, n'a pas laissé son empreinte dans le cœur de ces gens. Ils ont vu des miracles. Ici, il ne s'agit pas seulement des miracles, du miracle qui vient de se faire, c'est-à-dire d'abord la multiplication des pains, et puis ils n'ont pas vu le miracle de la marche sur les eaux, alors ce serait la multiplication des pains. Il s'agit de tous les miracles dont il a été parlé précédemment, et que ces foules l'avaient vu faire, puisqu'elles étaient accourues là-bas, de l'autre côté de la mer, parce qu'elles l'avaient vu faire des miracles. Donc, la foule a vu plusieurs miracles. Et le mot qui est employé ici, le mot grec, signifie « signe ». On l'a traduit par « miracle », c'est pour que nous comprenions, n'est-ce pas, qu'il s'agit de ces faits surnaturels. Mais en réalité, le mot est « signe », ici. Non parce que vous avez vu des signes puissants, si vous voulez, des signes surnaturels. Mais il faut garder cela. Le mot miracle ne nous permet pas de tirer le parti qui convient de ce passage. Alors, non parce que vous avez vu des miracles. Les miracles auraient pu tout de même être pour eux quelque chose, n'est-ce pas? Ça les avait attirés à Jésus. Mais ils y sont déjà habitués. Ça y est, ils sont habitués aux miracles. Et nous allons le voir dans la suite demain. Ils sont habitués. C'est une chose extraordinaire, terrible. Ça sont cela, mes amis. D'ailleurs, pouvons dire une chose, c'est que la nature nous offre constamment des miracles. Les savants, quelquefois, le disent. Ils le disent presque malgré eux. Ils disent, telle chose de la nature, c'est un véritable miracle. Mais seulement c'est un miracle qu'on voit tout le temps, qui se reproduit tout le temps. On est habitué, puis on n'y fait plus attention. On ne fait plus attention à ça, n'est-ce pas? C'est devenu monnaie courante, et on y est habitué. Et eux, ils commençaient à s'habituer au miracle du Seigneur. Alors, ce n'était plus le miracle, le signe qui les arrêtait, c'était le résultat du signe, le résultat immédiat. Les pains qu'ils avaient mangés, le rassasiement qui leur avait été procuré. Il faudrait tout de même pouvoir élever son cœur, ses désirs, sa recherche vers les tiens d'en haut, c'est ça qui satisfait. fait le Seigneur, mes amis. Quelle leçon nous avons à tirer de cela. Je vous en prie, élevez vos cœurs. Élevez vos cœurs vers les choses d'en haut. Ne restez pas à ras de terre. Ne considérez pas la parole du Seigneur comme n'ayant d'efficience utile, intéressante, que à ras de terre. Même si elle en a, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'elle n'en aura pas, mais c'est pas à ça qu'il faut rester attaché. Il faut élever ses cœurs, son cœur, s'affectionner aux choses de l'esprit. Et alors, les miracles, comme je vous l'ai dit, ce sont ici des signes. Au lieu d'y voir les signes messianiques, la foule n'y voit que les bienfaits immédiats. Autrement dit, n'est-ce pas? Elle se trompe sur le signe des miracles, sur l'utilité des miracles. Elle voit le signe d'un bien-être présent, actuel. Voilà. Limité. Dans les limitations de ce monde, parce que c'est déjà fini, la journée, ils sont le lendemain du jour de la multiplication des pains, mais c'est fini, le pain qu'ils ont mangé la veille, ben c'est fini, il faut qu'ils en mangent un nouveau aujourd'hui. Il faut qu'ils en mangent un nouveau. Alors, est-ce que Jésus va devoir, tous les jours, recommencer un miracle de multiplication des pains pour les nourrir? Est-ce cela qu'il voudrait? N'est-ce pas? C'est impossible dans l'économie actuelle. Le miracle ne va pas être fait, accompli, pour satisfaire les besoins de notre vie, que ce soit notre guérison, que ce soit notre nourriture, que ce soit autre chose, une victoire sur un obstacle, n'importe quoi, n'est-ce pas? Ce serait facile de compter sur le miracle. Dire, Seigneur, Seigneur, interviens, enlève ça. Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger. Oui, le Seigneur le fera quelquefois. Il le fera quelquefois, mais il ne le fera pas toujours. Parce que s'il le faisait toujours, il nous habituerait à la paresse. Et puis, le miracle aurait pour effet de révoquer le verdict de Dieu prononcé en Éden à la suite du péché. Et ce verdict, c'est « Tu mangeras du pain à la sueur de ton visage. » Tu mangeras du pain à la sueur. Il faudra que tu fasses un effort. Il faudra que tu travailles. Dieu te le donnera. De tout sens, qu'il s'agisse de nourriture physique, de nourriture spirituelle, c'est toujours un don de Dieu. Mais le don de Dieu, il faut, dans cette économie, le prendre par un travail. Et non sans travail. Et c'est pourquoi le miracle ne sera pas quelque chose de coutumier, de constant, mais quelque chose d'exceptionnel. Si le miracle était constant, il serait un mal et non un bien. Et là, mes amis, réside le secret de la retenue des miracles, ou si vous voulez, de la faible fréquence des miracles parmi tous les événements de notre vie. Le miracle y occupe une petite place, n'est-ce pas? Et encore est-il qu'il faudrait qu'il y occupe cette place, ce serait bon. Pas, mais il n'occupe qu'une petite place et il n'occupera jamais une grande place. Et ça, attention, dans la Pentecôte, de ne pas se fourvoyer et de ne pas, n'est-ce pas, faire comme ces gens, de compter sur le produit du miracle. Non pas sur le miracle signe, mais sur le produit du miracle. Oh Seigneur, je souffre, guéris-moi Seigneur, ou Seigneur, j'ai ceci, j'ai cela. Oh Seigneur, on me met à la porte, j'ai pas d'appartement. Seigneur, donne-moi un appartement. Oh, ça c'est vite fait, ça. Hein? Et puis, moi, me progresser dans la vie chrétienne, lutter un peu, travailler, n'est-ce pas? Non, pas question. Je vous ai dit hier soir qu'il y avait même dans l'église primitive une secte qui voulait révoquer complètement toute obligation de travailler, n'est-ce pas? Pas besoin de travailler. Eh bien, le miracle n'occupera toujours qu'une faible part des événements qui nous entourent. Une faible part. Et il interviendra toujours en qualité de signe. Voilà, chers amis, si nous pensions autrement, nous serions une fausse Pentecôte. Si nous voulons être une vraie Pentecôte, n'est-ce pas, nous aspirerons peut-être, bien sûr, au miracle en tant que signe, non pas pour recevoir cette puissance de Dieu qui transforme les situations et qui, quand on est mal d'une manière, vous met bien, n'est-ce pas, qui vous ôte tout sujet de lutte et même tout sujet de foi, non, ça, Dieu ne le fera pas. Dieu pourrait en faire beaucoup, il pourrait en faire des quantités, mais s'il faisait cela, les miracles nous rendraient faibles, nous rendraient exigeants, paresseux d'esprit et de corps. Et chers amis, je vous le répète, l'onction d'huile à laquelle je crois plus que beaucoup, cette onction d'huile, le Seigneur l'a subordonnée à quelque chose. Regarde le fond de ton âme. Et si tu me demandes alors de purifier ton âme, tout de suite tu es purifié ton corps. Mais examine-toi, confesse tes péchés. Reconnais, sache ce que c'est qu'un péché, sache ce en quoi tu m'as désobéi, apprends-le, regarde-le. Alors là, le miracle, mais je l'ai au bout de la main. Le Seigneur peut nous dire, il est là, je n'ai qu'à, il est même là, dans ma bouche, je n'ai qu'à prononcer un mot, et la chose se fait. Ça, ne discutons pas par conséquent de la difficulté du miracle, il est là, dans le mot de Dieu, ça. Mais Dieu, dans sa sagesse, ne le donne que comme signe. Et dans le peuple chrétien, il veut que le peuple chrétien soit heureux, il veut accomplir toutes les promesses, tout pour toutes les promesses, le oui est en Christ. Mais attention, il ne veut pas employer le miracle à faire de nous des rebuts, des gens, n'est-ce pas, qui ne demandent plus rien, des gens qui ne luttent plus dans la prière. Ah ben non! Alors là, ce serait tout le contraire de ce que Dieu précisément poursuit selon son amour. Il ne nous aimerait pas s'il nous gâtait comme ça. Il ne nous aiderait pas, il ferait de nous des mauvais enfants gâtés. Vous savez combien il y a en nous, n'est-ce pas, de disposition pour devenir des enfants gâtés. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Alors voilà, n'est-ce pas, tout le secret de ce que j'appelle la retenue des miracles. Dieu les retient. Mais si nous avons de la foi, mais si dans l'Église il y a de l'obéissance, nous les rendrons aussi nombreux qu'il est possible. À certains moments, dans le livre des Actes, on voit que les miracles ont afflué, n'est-ce pas? Quand Paul était à Éphèse, là, au chapitre 19 des Actes, c'est fantastique, ils s'en aient jamais fait autant, n'est-ce pas? Il faisait des miracles, mais c'est un temps qui n'a pas duré. Ça n'a pas toujours été comme ça tout au long du ministère même de Paul. Ça n'a pas été comme ça tout au long du ministère. Il a fallu à certains moments, n'est-ce pas, lutter. Et puis les miracles, certes, se sont manifestés dès qu'il était besoin. Comptons donc sur la sagesse de Dieu pour les manifester en tant que signe. Alors le Seigneur Jésus va dire ceci, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez. Cela peut nous sembler assez bizarre parce que nous voyons que ça aboutit évidemment au salut. Il s'agit là nettement du salut que le Seigneur veut donner aux hommes et il nous dit travailler. Seulement, il ne faut pas, n'est-ce pas, jouer sur les mots. Il ne faut pas être que nous soyons de ceux qui se servent de la Bible avec les mots du traducteur. Et en comparant les mots, n'est-ce pas, en rapprochant les mots, en disant ben, ce mot il est ici, il est ailleurs, etc. Et j'établis une grande équivalence entre tous ces emplois du même mot français, n'est-ce pas, ce serait une erreur colossale. Une erreur colossale. Il faut chercher l'idée et chercher des parallèles entre les passages bibliques, des parallèles par analogie, selon l'idée, dans l'analogie, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut. Mais il faut savoir que un mot peut être employé d'une manière comme ceci, dans un autre passage autrement. Nous savons bien que les mots de la langue ne sont pas toujours employés de la même manière ou pour signifier exactement la même chose. Eh bien, travailler littéralement ici, cela veut dire procurez-vous par votre travail. Voyez-vous, procurez-vous. L'idée dominante dans ce mot, c'est cela. Procurez-vous. Procurez-vous. Procurez-vous, pas en restant inactif, pas en restant dans votre flegme, n'est-ce pas? Voyez-vous, voilà ce que veut dire Seigneur. Pas en restant comme ça, n'est-ce pas? Je veux bien, moi j'en veux bien. Non. Procurez-vous en faisant quelque chose, il y a quelque chose à faire. Voilà l'idée du Seigneur. Mais ce qui domine dans le mot, c'est procurez-vous. Et procurez-vous, dit le Seigneur, non un amoncellement de la nourriture du corps. Vous seriez très prêt à vouloir tout une nourriture facile, à vouloir les biens de la terre, n'est-ce pas? Vous êtes très friand de cela. Mais c'est pas cela. Il ne faut pas aspirer à cela. Le Seigneur l'avait déjà enseigné d'autre part. Ne cherchez donc pas, n'est-ce pas, une abondance de la nourriture du corps qui périt. Il vous la faut, mais le Seigneur vous la donne. Le Seigneur a enseigné cela par ailleurs. Ne cherchez donc pas une abondance de la nourriture du corps, la nourriture qui périt, mais au contraire, une nourriture d'une nature tout autre. Vous avez à aspirer à une autre nourriture. Vous pensez trop à celle-là, mais pas assez à une autre nourriture. Un aliment spirituel, un pain de vie que le Fils vous donnera, car Dieu l'a marqué de son sceau, que le Fils de l'homme vous donnera une nourriture, un aliment spirituel auquel il vous faut aspirer. Et notez bien ceci, voyez, je vous ai dit que travailler, ça avait le sens ici de procurez-vous par un certain travail, par quelque chose, il y a quelque chose à faire. Travail ici signifie exactement un quelque chose à faire. Alors, procurez-vous. Et la preuve qu'il s'agit bien de procurer, c'est que Jésus, dans la même phrase, dit « Le Fils de l'homme vous donnera. » Il ne va pas vous le faire payer, il vous le donnera. Quelque chose qu'il va vous donner, mais vous avez quelque chose, vous avez autre chose à faire pour le prendre, pour vous le procurer. Mes chers amis, toute la psychologie, j'emploie assez souvent ce terme, la psychologie spirituelle est là. Combien de gens sont dans l'Église, sont intéressés même par l'Évangile, n'est-ce pas? Et ne se procurent pas, et ne saisissent pas le salut, la nourriture, le pain de vie que Jésus donne. Ils ne le prennent pas. Ah, mes amis, c'est une chose affligeante, cela, n'est-ce pas? Une chose affligeante. Mais ils sont là, mais ils ne prennent pas. Il faut le prendre hardiment, et il faut... Ce travail dont parle ici le Seigneur, c'est d'abord de se reconnaître, c'est d'abord de dépenser, si vous voulez, une certaine activité d'esprit, de penser, de regarder les choses telles qu'elles nous sont annoncées par la parole de Dieu. Ben oui, je suis un homme pécheur. Ben oui, c'est vrai, je suis. Je ne peux pas être sauvé tel que je suis maintenant. C'est pas possible. Je suis comme le monde. Le monde ne peut pas être sauvé tel qu'il est. Il y a l'autre jour, un homme appartenant à une grande organisation qui est de teinte marxiste, qui l'a déclaré. Il a dit, ce monde tel qu'il est, on ne peut pas le sauver, personne ne pourra le sauver. C'est un cri qui a jailli de son cœur. On ne peut pas sauver ce monde, et moi je suis comme le monde, comment serais-je sauvé? Donc il y a quelque chose que je dois faire. Eh bien, je commencerai par me reconnaître pécheur, par m'humilier. La voie que Dieu me trace est la bonne, n'est-ce pas? Se repentir! Ah, voilà quelque chose à faire! Voilà ce qui est à faire! Se repentir! Et ensuite saisir par foi ce que le Fils de l'homme a à nous donner. La nourriture, le pain de vie. Ce que le Seigneur aussi dit, n'est-ce pas, travailler pour la nourriture qui subsiste jusqu'en vie éternelle, c'est aussi devenir capable de recevoir le pain de vie. Préparez-vous à cela, le don de Dieu étant à prendre, à saisir, et même, selon le terme qu'emploiera un peu plus loin le Seigneur Jésus, à manger. Voilà ce que vous avez à faire, à manger le pain de vie, à manger la chair et à boire le sang. Voilà la chose qui est à faire. Tout le reste du discours va expliciter ce que je vous dis là. Et alors la foule va questionner Jésus et lui dire, mais quel est ce travail? Quelles sont les œuvres qu'il faut accomplir, les œuvres de Dieu? Tu nous parles des œuvres, nous comprenons bien qu'il s'agit des œuvres de Dieu. Mais quelles sont-elles? Nous sommes un peu perdus, nous ne savons pas du tout ce qu'il faut faire. Tu nous parles de travailler. Alors, à quoi faut-il travailler? Mais le don de Dieu reste un don. Et il ne peut pas être autre chose qu'un don total, 100%. Le Seigneur n'a pas voulu dire qu'il fallait gagner par un travail, mais qu'il fallait, au contraire, se rendre capable de saisir ce don. Et il faut se l'approprier par une foi qui comprend la repentance et la foi. Alors le Seigneur, on pourrait presque dire du tac au tac, va leur répondre. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il va leur répondre, non pas les œuvres, mais l'œuvre au singulier, l'œuvre de Dieu, l'unique, celle qui compte maintenant, celle qui comprend toutes les autres, l'unique œuvre de Dieu. N'allez pas chercher à côté. Oh, chers amis, il y aurait de quoi méditer pendant des heures. N'allez pas chercher les à côté, ceux qui se dérobent, voyez-vous, à l'appel de Dieu. Ils vont toujours à côté, ils sont intéressés, mais ils vont chercher, ils vont se lancer dans une discussion par ici, dans une discussion par là. Ils vont aller chercher un tas de détours, un tas de choses, n'est-ce pas? Et alors, ils vont s'inquiéter d'œuvres, n'est-ce pas? Ah oui, les œuvres de Dieu. Alors que le Seigneur leur dit, il y en a une œuvre de Dieu qui compte avant tout et qui est celle qui contient toutes les autres, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ainsi, nous pourrions dire, selon cette réponse du Seigneur, c'est une réponse, disons, de circonstance. Et il parle de la foi en lui, bien sûr, comme déterminant, comme apportant, comme permettant à l'homme de saisir le salut de Dieu, oui. C'est vrai, et ça, c'est une réponse de circonstance, mais malgré tout, il y a quelque chose aussi qui peut être relevé là, c'est que la foi est bien une œuvre. La foi est une œuvre, ben, réellement une œuvre. La foi est une œuvre parce que la foi, c'est la mise en mouvement d'un sens spirituel qui est inné. C'est-à-dire qui existe dans l'homme, tout comme les yeux que nous avons à la tête, les oreilles, le palais, n'est-ce pas, et nos sens physiques, eh bien, c'est quelque chose que nous recevons en venant dans ce monde. Nous avons la pensée de l'éternité, le sens de l'éternité. Il y a un sens spirituel en nous qui est caché là. Mais l'homme, n'est-ce pas, dans son orgueil, dans sa résistance à Dieu, il endurcit son cœur. Il établit une carapace là pour pas que ça s'exerce. Pour que ce sens reste niché là, parce qu'il ne peut pas le détruire. Aucun homme n'a réussi à le détruire, ce sens, il met de la foi. Et alors, la foi qui procure le salut, c'est une foi qui va s'exercer sur la personne du Seigneur Jésus, comme un regard porté sur le serpent des reins, nous avons traité la chose l'autre jour, c'est ça, le regard va se porter. Eh bien, la foi est un regard qui va se porter. Celui qui voit le Fils de l'homme et qui croit en celui qui l'a envoyé à la vie éternelle. Alors, c'est un véritable, c'est la mise en exercice de ce sens caché. Et si je puis n'est-ce pas, le dire, eh bien, mon regard, quand je regarde quelque chose, je le regarde avec obstination, eh bien, c'est une œuvre que je fais. C'est une œuvre de regarder, n'est-ce pas? Et en ce sens, la foi, l'exercice de la foi est une œuvre, mais c'est l'œuvre unique à laquelle l'homme est convié pour le salut. Et ce qui nous montre bien, ici, puis enfin le passage, nous allons en reparler dans la suite, la foi dont parle le Seigneur Jésus n'est pas cette malheureuse adhésion à laquelle aujourd'hui tant de prédicateurs, d'évangélistes qui voudraient tellement simplifier les choses, ça, et les adapter à la pauvreté de notre, à la misère de notre temps aujourd'hui, la misère spirituelle, que ils veulent réduire la chose, réduire l'œuvre de la foi, la réduire. Mais croyez, mais est-ce que vous acceptez? Mais Jésus, voyons, vous comprenez bien qu'il est le Fils de Dieu. Mais croyez qu'il est mort sur une croix pour vos péchés. Comprenez cela? Bon, oui, bon, oui. Eh bien, vous le croyez? Oui, sans restriction. Oui, je crois, oui, oui, bien sûr. Eh bien, vous êtes sauvés. Ah non, mes amis! Ah non, c'est là l'erreur! Et je suis en train de préparer une étude dont j'ai déjà réuni les éléments pour montrer la fausseté d'une évangélisation de cet ordre. Pour montrer que ce n'est pas le vrai salut que l'on donne alors. C'est pas ça. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'est seulement si vous allez jusqu'au bout et si vous appelez des hommes à exercer la foi authentique, la foi qui est une œuvre, ça c'est seulement là que vous amènerez des hommes à la possession du salut. Et c'est là que ce salut sera fondé, non sur les paroles d'un homme, non sur une petite rhétorique, non sur une petite démonstration qui a utilisé des mots, mais sur la puissance de Dieu. Il faut que la foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait le oui de Dieu, de Christ. Il faut que la foi soit ce qu'elle doit être, authentique, et qu'elle est bien sûr, emporter l'âme à se voir telle qu'elle est et à se repentir. La foi n'est pas une adhésion, c'est pas une concession de pensée, chers amis. Hein, souvent, n'est-ce pas, avec tous nos papiers, notre littérature et nos démonstrations, on voudrait faire, n'est-ce pas? Moi, j'en fais des démonstrations, mais des démonstrations qui n'ont pas la prétention de se substituer à l'exercice de la foi, bien sûr. Mais, n'est-ce pas, souvent on présente le salut avec des petites démonstrations, n'est-ce pas, oh pas méchantes, enfantines presque, n'est-ce pas, bon, un homme était perdu, il se noyait, alors un autre est venu, puis lui a jeté une bouée de sauvetage, l'a pris, l'a arraché, alors on fait une petite démonstration, et puis avec une image prise, ceci, cela, quelquefois une image prise aussi dans la banque, prise dans le droit, dans le, n'est-ce pas, la pratique du droit. Alors on va prendre toutes sortes de petites images comme ça, puis essayer de démontrer. Vous comprenez la chose, comment? Oui, alors, on amène des gens à dire oui, j'admets. J'ai entendu des gens à qui on a dit vous êtes sauvés, qui ont dit j'admets. Ah non! Non, mes amis, non! C'est peut-être un commencement qu'il ne faut pas mépriser, bien sûr. Je dis pas de mépriser ça et de laisser ces gens-là, mais il faut les conduire beaucoup plus loin. Faut pas les laisser là! Faut pas leur dire brutalement comme ça, ça y est, vous êtes sauvés! Et si c'est pas vrai? Ah! Alors, n'est-ce pas, ce n'est pas une concession de pensée. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une foi d'information. Nous avons parlé ici, n'est-ce pas, de la foi d'information. Et puis de la foi qui est une œuvre. La foi, je reprends l'exemple de Jéricho avec, comment s'appelle-t-elle donc cette femme qui Rahab, oui, la prostituée, cherchait son nom. Eh bien, je reprends donc cet exemple. Tous les habitants de Jéricho en savaient tout autant que Rahab. Ils en savaient tout autant, le roi en tête. Ils savait que le peuple avait renversé deux rois et dévoué tout le monde par interdit. Ils avaient détruit deux nations au passage. Ils le savaient. Ils connaissaient tout. Ils avaient eu des rapports les plus détaillés sur toute cette montée du peuple de l'autre côté du Jourdain. Et ils voyaient le peuple s'engouffrer, là, à travers le Jourdain. Et Jéricho était là, bien sûr, ils allaient attaquer Jéricho. Ils savaient tout, ils savaient que ce peuple était conduit par l'Éternel, leur Dieu, c'était un Dieu puissant qui avait fait ceci, cela, ils savaient toutes ces choses, autant que Rahab n'en savait pas plus. Mais Rahab avait la foi d'information, elle le dit, j'ai appris, nous avons appris, elle dit d'ailleurs, pour tous ses compatriotes, nous avons tous appris, alors, elle avait appris comme les autres, elle n'avait pas d'informations spéciales, le roi en savait même peut-être plus qu'elle, ça. Eh bien, elle avait appris, seulement elle fait une chose. À côté de cette foi d'information, elle met une foi qui entre en mouvement. Une foi qui devient une œuvre, qui s'exerce. Alors elle dit, ben, puisque, alors c'est ça, ben moi j'en tire une conclusion. Alors, elle fait ce qu'elle peut. Ce qui se présente à elle, qu'est-ce qu'elle a à faire, sauver ces gens-là, c'est pas le bon moyen qu'elle en... Le Seigneur ne lui demande pas à ce moment-là, n'est-ce pas, des œuvres de justice. Et sans ça, ce serait un paiement. Il ne lui demande pas des œuvres de justice, elle va employer le mensonge, la ruse de guerre. Hein. Elle va dissimuler les gens sous des tiges de lin et puis dire aux soldats, non, ils sont partis, tenez, courez derrière là-bas. Et on voit les soldats courir dehors, n'est-ce pas, pendant que les gens sont là, puis... Elle va les faire descendre par sa fenêtre, n'est-ce pas, tout doucement, comme ça, quand le danger sera passé, puis ils s'en diront, elle les a sauvés. Mais c'était sa foi qui est entrée en mouvement, sa foi qui s'est exercée, et c'est cette foi-là qui l'a sauvée, elle et sa famille, n'est-ce pas, et non pas les autres habitants de Jéricho, qui pourtant avaient la foi d'information, ne doutaient pas du tout du danger qui les menaçait. Voyez, n'est-ce pas, il faut absolument que nous revenions à un équilibre, un bon équilibre, parce que dans ce temps, je vous le dis, j'ai causé assez longuement, il y a quelques mois, avec Ferris, ben, vous connaissez Ferris, oui, qui est évangéliste particulièrement dans le midi, n'est-ce pas, on causait ensemble de ça, et lui-même, n'est-ce pas, m'a dit, je suis indigné, littéralement indigné, de voir, n'est-ce pas, que l'on prêche la foi, le salut par la foi en Jésus-Christ, sans en éludant complètement toute difficulté, la repentance y compris qu'on considère comme une difficulté. Alors que ça n'en est pas juste. N'est-ce pas? Alors, il a dit, je suis indigné. Indigné, n'est-ce pas, de voir cela, ce n'est pas le vrai salut que l'on prêche. C'est un faux salut, et on l'a fait entrer les gens dans une illusion, et non dans le salut véritable. Mes amis, c'est une chose sérieuse. Évidemment, n'est-ce pas, on se laisse gagner par l'esprit du temps, on se laisse grignoter par l'esprit du temps, la pensée du temps. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens raisonnent, alors on va leur raisonner un petit peu le salut aussi. On va tâcher de leur raisonner, leur faire comprendre, leur faire entendre, leur faire accepter ça, oui. On va raisonner tout ça, parce que aujourd'hui, on ne peut pas demander plus aux gens, on leur dit qu'ils sont pécheurs, oh ça va pas, oh non. Ils n'ont pas accepté ça. Alors, on ne va pas leur dire qu'ils sont pécheurs. On ne va pas leur dire. Allez, voilà, n'est-ce pas, le mauvais travail qui se fait. Mes amis, nous allons entrer avec la suite de ce chapitre 6. Nous allons précisément entrer dans une étude de la foi. Ça, vous allez voir quelle est la foi dont parle le Seigneur. Il n'a pas peur, le Seigneur, et nous verrons de laisser des disciples, qui était baptisé, les laisser s'en aller. Il va même dire à ses apôtres, vous ne voulez pas partir aussi? Vous ne voulez pas vous en aller? Alors ce pauvre Pierre, il ne sait pas très bien, il ne sait plus très bien où il en est, il n'a pas compris tout, il est loin d'avoir tout compris. Il n'a pas compris le miracle des pains, ça nous est indiqué. Il n'a pas compris non plus la marche sur les eaux, il y a un tas de choses, il va comprendre ça plus tard, n'est-ce pas? Mais il n'a pas compris, je vois un temps, alors il dit, Seigneur, où veux-tu que j'aille, où veux-tu que nous allions? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, tu as les paroles. Et c'est ça qu'il raccroche, n'est-ce pas, à son Seigneur.
Mais le Seigneur, n'est-ce pas, veut, à cet instant, leur faire faire ce choix décisif. Ils n'en comprennent pas, il n'est pas nécessaire qu'ils aient compris, ce qui est nécessaire, c'est qu'ils aient exercé la foi sur la personne du Seigneur, exercé 100% en livrant leur personne, en perdant leur vie et en la déposant entre les mains du Sauveur. Voilà la foi. Amen.